Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour! Dans la continuité de cette série sur les relations dans les collectifs, j'avais envie de déployer des idées concernant les prises de pouvoir, les notions de pouvoir, les enjeux de pouvoir, les rapports de pouvoir. Le pouvoir reste une notion qui soulève beaucoup de préoccupations dans notre monde des collectifs, des écolieux, des oasis. Et notre manière de l'aborder, c'est souvent de s'équiper avec de nouveaux outils de gouvernance et de designer l'organisation pour éviter les prises de pouvoir, avoir des notions de communication non violente, de prise de décision au consentement, etc., afin de mieux répartir le pouvoir. Cette notion de pouvoir, elle est importante dans la continuité de ce que j'ai exposé concernant la confiance, la notion de confiance, parce que une des choses qui va créer de la défiance dans un collectif, même dans une relation quelle qu'elle soit en fait, c'est lorsque l'autre me paraît prendre le pouvoir sur moi ou sur la situation. Et lorsque je me sens privée de quelque chose d'utile ou de nécessaire, ou même d'une liberté par les positions ou les actions ou les comportements d'autrui. Il y a cette phrase célèbre qui dit que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, mais ma liberté s'arrête aussi là où l'autre prend le pouvoir. En tout cas, c'est la croyance que nous avons et la crainte que nous nourrissons souvent dans la relation. Il y a cette inquiétude. Est-ce que l'autre va prendre le pouvoir sur moi? Est-ce que l'autre va être un facteur limitant de ma liberté? Vaste question. J'observe en effet par toutes les médiations que j'ai pu faire entre des personnes qui n'arrivaient pas à se comprendre ou qui ont vécu des épisodes difficiles dans un quotidien, tout simplement. Il y a souvent cette notion de justement tes comportements, ils empiètent sur ma liberté. Par exemple, lorsque tu mets la musique à un certain volume sonore, je n'ai plus la liberté d'être au calme. Et ça, ce sont des choses qui peuvent arriver entre voisins, et notamment dans un collectif où on coexiste les uns avec les autres, on œuvre quotidiennement dans des espaces collaboratifs. Par exemple, eh bien, lorsque tu ris bruyamment, tu parles fort, tu prends du volume, de l'espace dans une pièce commune comme une salle à manger ou une cuisine partagée, ça empiète sur ma liberté d'avoir de la tranquillité, d'avoir ma part d'espace sans avoir à ressentir qu'elle est déjà occupée par quelqu'un d'autre. Et je peux me sentir intrusée. Donc, quelque part, comme si mes limites personnelles étaient franchies. Était violée dans le sens d'une violation d'espace. Et à ce moment-là, on peut considérer que la liberté de l'autre va trop loin. Également pour des personnes qui ont un gros besoin de s'exprimer ou un grand besoin de reconnaissance et qui vont régulièrement ramener au centre des discussions, au centre des échanges, dans des situations du quotidien, leur point de vue, leur vision du monde, leurs paroles, leurs réflexions, leurs conseils, alors même qu'on ne les a pas interrogés sur ces points, mais il y a des personnes qui sont plutôt expansives, voire extraverties parfois, et qui vont s'exprimer beaucoup dans le groupe et prendre plus de bandes passantes que les autres, quoi. Ça va être des gens qui sont un peu omniprésents, voire qu'on pourrait qualifier aussi d'un peu omniscient parce que toujours un avis sur chaque sujet. Et ça, parfois, ça peut heurter les autres membres du collectif, les déranger et finir par les envahir. On pourrait considérer que ce sont des prises de pouvoir. Mais c'est aussi le pouvoir que d'autres ne prennent pas. C'est-à-dire, des fois, dans des groupes, il y a cette plainte que l'autre se positionne, se fait entendre, s'exprime à des endroits où soi-même, on ne se manifeste pas. Donc on laisse du vide, on laisse de la place à cet endroit. Avec aussi, parfois, juste le prendre soin de ne pas s'imposer aux autres. Peut-être ça, ou prendre aussi la mesure de ce que serait un corps social, même composé de juste quelques membres, si en permanence chacun investit le champ de liberté qui permet de s'exprimer et faire valoir qui on est dans l'espace collectif. Donc il y a des personnes qui prennent soin de ne pas envahir ce champ-là et se réservent pour des espaces de concertation qui sont définis plutôt que rentrer dans un quotidien où il y a des espaces indéfinis où on va prendre beaucoup de place. À la place où je suis, à la place où nous sommes avec Laurent, je pense que c'est même certain que nous avons beaucoup de place. Encore plus aujourd'hui que nous avons une grosse expérience à faire valoir. Simplement, nous sommes porteurs de cette importante expérience de plus de 20 ans. Nous avons des rôles à responsabilité dans l'Oasis. Je suis présidente de la SKIC, Laurent est directeur. Nous sommes fondateurs, cofondateurs avec d'autres de cette nouvelle Oasis. Et nous sommes aussi avec un certain niveau de renommée. Et donc, on se sent très engagé, très responsable de tout ce qui peut se passer. Et nous sommes aussi perçus comme des référents. Donc on nous interroge énormément sur la marche à suivre, sur quels seront les prochains pas, comment faire telle ou telle chose. Cet espace disponible, c'est sûr que cet espace d'interaction qui est disponible, à la place où nous sommes, l'un et l'autre, en plus nous sommes aussi gardiens de cette oasis, mais je reviendrai sur ce thème de gardien, eh bien nous avons un champ d'expression qui est très important et qui est supérieur à la plupart des personnes. Donc je me pose un peu toutes les cartes sur la table pour qu'on puisse faire ensemble le tri de ce que c'est que le pouvoir, la relation de pouvoir et les prises de pouvoir, etc. Ce qui va parfois nuire ou amoindrir la confiance que nous avons les uns envers les autres, c'est vraiment cet espace, ce curseur du pouvoir qui est entre nous tous, et qui peut parfois amener un fort sentiment d'insécurité. Encore récemment, il y a des personnes qui sont parties de l'Oasis et qui ont déposé à un moment donné, si on ne se sent pas vraiment en accord avec la direction que prend l'Oasis, on ne voit pas comment s'y retrouver parce que à quel endroit on a le pouvoir d'influer ou d'influencer en tant que simple participant à ce projet face à des fondateurs, des porteurs de projet, des rôles à responsabilité hein, qui prennent une responsabilité légale, pénale, financière hein, à tous les niveaux et qui donc sont plus légitimes que nous-mêmes à mener le projet, à l'orienter dans un sens qui leur paraît juste. Donc il y a ce pouvoir que nous confère un périmètre qui est lié à un rôle, le rôle de fondateur, le rôle de gardien, le rôle de directeur, le rôle de responsable, le rôle de chef de projet, chef de chantier, même le rôle de boulanger, le rôle de chevrier, de maraîcher, parce que à chaque rôle est lié un périmètre. Et ce périmètre, c'est vraiment l'espace de légitimité à l'intérieur duquel le rôle peut prendre des décisions qui sont en lien avec ses responsabilités. Donc effectivement, l'aspiration dans les écolieux, c'est quand même le leadership coopératif. C'est de pouvoir être chacun maître dans son domaine de compétences et d'exercice et de pouvoir faire cohabiter et coopérer le plus harmonieusement possible tous ces rôles avec un leadership. C'est aussi ce qu'on appelle le leadership coopératif. Ça, c'est bien sûr l'aspiration majeure, c'est la philosophie qui sous-tend bien souvent les écolieux. Mais dans le réel, on se rend compte que, y a des nuances. Et notamment, c'est dans ce ressenti qui est lié à une forme de défiance, de cet endroit où il n'y a plus la confiance que l'autre ne va pas prendre le pouvoir sur ma liberté, ne va pas prendre le pouvoir sur moi, ne va pas prendre le pouvoir sur mon périmètre aussi. également. Et qu'est-ce qui peut servir d'antidote en quelque sorte à ce sentiment d'insécurité face à des rôles qui ont du pouvoir en dehors d'une gouvernance bien menée où chacun a un pouvoir d'objection et qui met les uns et les autres dans une forme d'horizontalité? Il y a l'explicite d'une gouvernance coopérative avec un leadership coopératif et il y a aussi l'implicite. Et dans l'implicite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnalités qui n'ont pas les mêmes effets sur le groupe et sur le quotidien que d'autres personnalités. Alors ça peut être effectivement pour des raisons d'appartenance à des rôles clés qui ont manifestement un périmètre plus étendu que certains autres rôles. Ça, c'est un fait. Mais il y a aussi la personnalité en tant que telle. Et dans les difficultés interpersonnelles, c'est plus celle-là qui va jouer un rôle qui va peut-être occasionner une perte de confiance ou dans la relation ou dans le groupe, en fonction des situations. Parce que lorsqu'un individu a des comportements qui me paraissent empiéter sur ma liberté, à ce moment-là, je vais avoir un sentiment de prise de pouvoir et perdre de la confiance. Par exemple, lorsque, au cours des discussions, des processus ou des groupes de parole ou des groupes de travail, peu importe, certaines personnes ne lâchent pas l'idée qu'elles ont raison, même si elles se retrouvent en minorité, à un moment donné, j'ai envie de dire que si je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête à donner un peu de ma liberté absolue pour faire place à d'autres points de vue que le mien dans une oasis, c'est même pas la peine de vivre en collectif. Le collectif implique nécessairement une mobilité dans mon point de vue. Et ce que je remarque, c'est que les individus qui ont pas mal de conflits ou qui posent problème aux autres dans les collectifs sont ceux qui ne sont pas du tout prêts à bouger un peu leur point de vue pour accueillir ou laisser place au point de vue d'autrui. Je ne mets pas ça comme une condition dans le sens où ça me semble complètement légitime dans certains cas de ne pas accepter un changement de point de vue qui bouleverserait quelque chose qui est important pour nous. C'est pas conceptuel ou c'est pas un principe que je suis en train d'énoncer. C'est pas par principe il faut changer son point de vue pour vivre en collectif. C'est pas ça. Parce qu'il y a des points de vue qui nous sont chers et que nous n'avons pas à transformer si ça n'est pas une conviction profonde, ou ça ne correspond pas à notre réalité, ou ça ne correspond plus à notre authenticité. Il ne s'agit pas de sortir de notre authenticité pour embrasser et se laisser pétrir par les points de vue des autres. Moi, il y a des idées ou des expériences ou des convictions que je n'autorise personne à transformer, non pas par entêtement, par radicalité. Alors ça peut sembler radical peut-être à certaines personnes parce que ça ne rencontre pas leurs convictions, mais c'est simplement que, par exemple en termes d'éducation, j'ai mené une recherche depuis que j'ai 20 ans, donc j'en ai 51 aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que je mène une recherche. Cette recherche, elle a été en mouvement, elle a été mobile, elle m'a amenée à une idée, puis à une autre idée, puis à des constats, puis à d'autres constats, et à des pratiques, et à d'autres pratiques, et au final, tout ça, ça fait une compétence. Et cette compétence, bien sûr, elle est devenue une conviction, parce que par la pratique, par l'expérimentation, par les observations, les conclusions, les constats, les essais-erreurs, etc., au final, je suis dotée d'une expérience qui me permet un positionnement. Et dans ce positionnement, il y a énormément de convictions. Et cette conviction, elle est authentique parce qu'elle s'appuie sur toute cette vie de développement d'une pratique. Et c'est tellement solide, en fait, qu'à cet endroit-là, il y a toujours un socle de conviction avec des doutes autour, parce qu'il y a toujours une place pour le doute. Je ne peux pas dire « je suis à 100% sûre et certaine qu'un être humain répond de manière indéfectible et invariable à telle et telle et telle et telle caractéristique et donc doit être nourri de telle et telle façon ». Bien sûr que dans le vivant, on va rencontrer des variables et des variantes qui font que la plus solide des convictions est toujours mise à l'épreuve des faits. Mais en revanche, il y a aussi, au fil du temps, que s'est construit une expérience qui devient une expertise, en fait. Et ça, je ne vais pas le rendre malléable et mobile juste pour me fondre dans un collectif et permettre aux uns et aux autres d'infléchir mon point de vue. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, vu comme ça. Parce que ma raison d'être, ce qui est vrai pour moi, ma vérité, elle est légitime. Et la vérité de chacun est légitime. Mais en revanche, ce qui me paraît extrêmement précieux dans une organisation, c'est qu'on puisse organiser nos libertés individuelles de penser et d'agir selon nos convictions, sans que cela vienne ni faire levier d'une manière catégorique et dictatoriale sur la liberté des autres, comme c'est hélas malheureusement le cas, il me semble, dans beaucoup de sujets. De la part de plus en plus du gouvernement, j'ai envie de dire des gouvernements, parce qu'on voit à travers le monde des extrémismes et du totalitarisme qui revient sur le devant de la scène, comme pour dire le jeu de la démocratie a assez duré, les amis, donc maintenant, moi je sais de quoi vous avez besoin, je sais ce que c'est que mener une société, je sais ce que c'est que la bonne marche d'un peuple, et je vais vous dire ce que vous avez à faire, comment vous devez penser, comment vous devez agir, quitte à vous imposer de manière directe ou indirecte les règles et les lois que j'ai décidées. Donc effectivement, là, il y a une privation de liberté de penser et d'agir par soi-même qui est de plus en plus prégnante. Et dans nos micro-sociétés, que sont les collectifs intentionnels ou les oasis, on va au contraire essayer d'organiser la liberté de penser et d'agir des uns et des autres, tout en fonctionnant de concert. Et c'est là que ça peut être très compliqué, voire très complexe. J'ai envie de prendre un exemple qui nous est arrivé déjà et puis que récemment j'ai entendu dans une oasis également. Les outils collaboratifs, ils doivent être au service d'une authenticité, d'une forme d'authenticité et non pas au service d'une idéologie égalitariste, horizontale, de gouvernance partagée. Parce que je pense que si c'est le cas, ça peut faire beaucoup plus de dégâts qu'une zone de pouvoir qui soit assumée, expliquée, assumée. Prenons l'exemple d'une élection sans candidat. Donc l'élection sans candidat est un processus de choix d'une personne pour incarner un rôle qui est nécessaire à la communauté. Et pour cela, on va dérouler un processus, comme son nom l'indique, où il n'y a pas de candidat et où les différents participants de l'élection vont émettre des propositions de qui pourrait tenir ce rôle, quelle est la personne que je vois la plus apte ou la plus à même de tenir ce rôle en fonction de ce que je connais de cette personne et de ce que je sais du rôle à tenir. Donc chacun exprime un avis et propose un candidat. Et le candidat qui obtient le plus de voix, c'est-à-dire que le plus de personnes dans le cercle ont pensé à ce candidat et ont également exprimer leurs arguments au groupe pour que parfois d'autres électeurs puissent se rallier à la vision de celui qui a expliqué pourquoi il avait choisi telle ou telle personne. Et bien suite à ce processus, il y a une personne qui émerge. On lui demande si elle est d'accord pour tenir le rôle. Et si elle est d'accord, il y a un tour d'objection pour finaliser l'élection et être certain que personne ne s'oppose à ce que cette personne incarne le rôle donné. Et ce qui nous est déjà arrivé et ce qu'on a vécu dans notre conflit au hameau des Buis, c'est vraiment de ne pas connaître suffisamment les contours et les limites du pouvoir qu'on est prêt à laisser aux autres, avec les responsabilités qu'on a prises pour que ce lieu s'incarne, existe, au rôle clé qu'on a accepté de prendre et de porter pour le projet. Et récemment, on me faisait part aussi de ça, c'est-à-dire que si j'organise une élection sans candidat, il faut que je sois à 100% prêt à ce que n'importe quelle personne, même à laquelle je n'avais pas pensé, puisse prendre ce rôle sans que ça crée une objection de principe chez moi. Si j'ai une objection de principe parce que la personne à laquelle je n'avais pas pensé émerge, enfin, soit élue, à ce moment-là, ça pose la question, mais pourquoi avoir organisé une élection sans candidat, quoi? C'est ça. Donc, le pouvoir, il faut le connaître, il faut bien en connaître les contours. Si je ne peux pas assumer dans le rôle où je suis, peut-être un rôle à responsabilité, que certaines libertés soient prises au cœur du projet, il faut être explicite avec ça. Et pouvoir dire au collectif, bah, dans le cadre de mon rôle, peut-être mon rôle de gardien, mon rôle de fondateur, mon rôle de président, cette barrière-là, je n'accepterai pas qu'elle soit franchie. Parce que si elle est franchie, je ne suis plus dans les conditions qui me permettent d'assumer ce rôle, tout simplement. Et tant que je suis à ces manettes-là, bah, y a des choses qui vont être possibles et des choses qui ne le seront pas. Et ça, c'est la limite que je pose dans mon périmètre. Ce que je sais des projets qui se sont effondrés autour d'une velléité de départ forcé des fondateurs. J'en connais plusieurs projets comme ça et ça nous est arrivé à nous aussi. C'est toujours parce que dans la gouvernance ou dans la nomenclature juridique, on a laissé le pouvoir par idéal coopératif. On a peut-être accepté qu'un conseil d'administration ait plus de pouvoir que nous-mêmes. On a accepté de lâcher un droit de veto, on a accepté de donner la présidence à quelqu'un qu'on croyait de confiance. On a accepté de jouer le jeu de la gouvernance partagée à 150% avec une horizontalité effective, et on s'est retrouvé coincé, piégé par une impuissance. On s'est senti complètement démuni pour reprendre le contrôle de l'organisation, et donc à ce moment-là, elle nous échappe complètement. Ce sont d'autres personnes qui prennent le pouvoir et qui emmènent l'organisation dans la direction qu'elles le souhaitent, voire qui l'emmènent à l'effondrement, parce que parfois c'est tellement violent, tellement brutal. Il y a une sorte de surdité dans ces événements qui renversent quelque part des responsables d'un projet pour prendre leur place, qu'il n'y a tellement pas de soin qui est pris à faire une transition, que bien souvent, il y a des dégâts collatéraux qui sont inévitables dans ce type d'événement. Donc, comment éviter cela? Quelle vision du pouvoir nous pouvons mettre en œuvre? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est avant tout en prenant conscience de ce qu'est le pouvoir. Et que le pouvoir, c'est pas un énorme gâteau qu'on met au centre, là, et qu'on va partager à parts égales et qui s'appellerait gouvernance partagée. Le pouvoir, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas, c'est pas un trésor à conquérir au bénéfice ou au détriment des uns et des autres. Le pouvoir, c'est forcément ficelé, attaché à une responsabilité. Et prendre la responsabilité d'avoir le pouvoir, ça, c'est énorme. Parce qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir autoritariste. Il ne s'agit pas d'un pouvoir sur les autres. Il s'agit d'un pouvoir au service de la raison d'être d'un projet donné, d'un projet défini. Ce pouvoir me donne la capacité de dire non. Non, tu n'iras pas plus loin. Non, on ne va pas prendre cette décision. Parce qu'il y a chez le rôle qui incarne ce pouvoir-là une compétence de discernement qui est très importante. La personne qui est en charge, qui a la responsabilité d'un rôle capable de dire non, doit aussi avoir le discernement et être reconnue pour cela. Le discernement qui permet d'estimer à quel endroit certaines décisions pourraient mettre en danger la réalisation collective. Et même si nous avons une haute aspiration à promouvoir ce discernement ensemble, que ce soit un discernement coopératif, solidaire, à l'écoute des uns et des autres, ça c'est l'idéal et c'est un très bel idéal. Dans le relatif et dans le réel, il y a toujours un moment où l'on se perd parce qu'on ne sait plus quelle est la direction. Parce que chacun a des idées formidables sur le cap à tenir, sur sa vision du monde, sur la manière dont il faudrait œuvrer ensemble pour le meilleur du projet, mais que s'il n'y a pas une personne ou un rôle qui en prend réellement la responsabilité, il y a ce moment où le projet pourrait être comme un monstre à plusieurs têtes et n'avoir d'autre choix que s'entre-déchirer jusqu'à l'effondrement, parfois. Donc la personne qui incarne le rôle à responsabilité et qui peut à un moment dire non, a l'immense soin de garder le cap initial, de garder la raison d'être. C'est pour ça que nous, avec Laurent, nous avons initié ce rôle nouveau que nous n'avions pas dans nos projets précédents, qui s'appelle le rôle de gardien. Et c'est gardien de la raison d'être. Et dans notre rôle, bien sûr, il est rarissime que nous intervenions pour imposer un nom ou pour opposer un nom. Mais nous sommes comme des bergers chargés de veiller à ce qu'aucun élément dangereux ne vienne menacer l'intégrité de la réalisation qui est en train de se vivre. C'est cela être gardien. C'est une responsabilité, c'est pas un pouvoir en fait. Dans cette responsabilité, il y a un pouvoir. Mais dans toutes les responsabilités, il y a un pouvoir. Le boulanger, il a le pouvoir de décider de ses modes de panification dans son fournil. Et la présidente de la SCI que je suis ne peut pas légitimement aller voir le boulanger et lui dire, écoute, moi je t'impose de faire ton pain de cette manière et pas de celle-là. Là, on est dans un abus de pouvoir, parce que les périmètres ne sont pas respectés. Après, je peux proposer, je peux suggérer, je peux partager. Tout ça, c'est vraiment de l'ordre de la collaboration douce, bien que en communication non violente, on dira qu'on n'amène pas des conseils à autrui s'il n'est pas demandeur de conseils, que c'est déjà une violence d'aller conseiller quelqu'un sans qu'il le demande. Mais bien sûr, je suis légitime. Et chacun est légitime d'aller partager ou bien déposer des tensions auprès d'un rôle qui a un périmètre, sans pour autant mettre à mal ce périmètre, sans le négliger. Cette question du pouvoir, elle est vraiment hyper intéressante, hyper riche. Et pour résumer ce podcast, je rappelle que je suis partie d'un constat qui est que ce qui vient souvent mettre à mal la confiance que nous avons les uns envers les autres dans un collectif où il s'agit de coopérer au quotidien, c'est lorsqu'on a le sentiment que l'autre prend le pouvoir sur nous. Cela nous invite à veiller et à être extrêmement vigilants sur les endroits où on pourrait donner à penser ou donner à vivre que l'on prend le pouvoir sur l'autre. Donc l'invitation, c'est vraiment d'être vraiment maître de nos comportements et de nos paroles, de manière à ne pas activer cette sensibilité qui est très vivante et très présente dans nos sociétés où nous avons subi, pour la plupart d'entre nous, l'autoritarisme de nos parents et éducateurs. Nous avons été soumis à leur pouvoir. Donc ça vient très vite se réactiver dans les relations collectives. Donc je suis partie de là pour aussi rappeler que nous avons tous des rôles et donc un pouvoir légitime qui est représenté par un périmètre, que ce périmètre, c'est l'espace dans lequel je suis complètement légitime de décider et d'agir selon mes points de vue, mes convictions, ma pratique, mon expérience, mes compétences. Et enfin, je suis arrivée à cette notion, cette invitation à ne pas être dans un déni de pouvoir. Et à assumer que plutôt que de nourrir une idéologie égalitariste, horizontale, dans un horizontal absolu, dans une coopération un peu naïve et voire irréaliste, et bien d'assumer qu'il y a des responsabilités qui incluent la possibilité à un moment donné de mettre un veto, de s'opposer ou de dire non, de poser des limites qui ne sont pas des limites pour prendre le pouvoir sur les autres, mais pour prendre soin de l'organisation dont on est responsable. Et que ça s'emploie avec parcimonie, avec énormément de discernement, pour bien faire la part des choses entre des convictions personnelles ou des points de vue subjectifs et la santé d'une organisation qui, à un moment donné, pourrait être mise en péril par certains comportements. J'espère que ce podcast vous semblera clair parce que je suis allée toucher des domaines, des sujets qui sont sensibles et sur lesquels nous reviendrons parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à dire sur cette question de pouvoir qui est absolument centrale dans les relations interpersonnelles comme dans les relations plus collectives. Merci de m'avoir écoutée et à bientôt.